Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants? Des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler. Des livres avec des personnages racisés. Des livres loin des stéréotypes. Des livres non genrés. Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du Bruit de l'Odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Priska ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires de notre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Je peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous sur la boutique en ligne, lesenfantsdubruitdeodeur.com.
Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai astronaute.
Dans cet épisode bonus, nous avons eu le plaisir de recevoir la réalisatrice du film Mignonne, Maïmouna Doucouré. Nous avons abordé de nombreux sujets avec elle. Elle s'est tout d'abord présentée et nous a parlé de son enfance dans le 19e arrondissement de Paris, entourée de sa famille et de ses frères et sœurs, de sa relation mère-fille, de l'importance de l'école, de ses rêves de cinéma, et enfin de son film Mignonne, dans lequel elle aborde l'hypersexualisation des jeunes filles. Nous vous laissons découvrir l'épisode et vous souhaitons une bonne écoute.
Moi, quand je serai grande, je serai astronaute. Astronaute.
Maïmouna Doucouré, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur le podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Donc, on est vraiment, vraiment heureuse de te recevoir. Et merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, hein. Je suis honorée d'être là.
on va te demander de te présenter afin de connaître un petit peu plus qui est Maïmouna Doucouré. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction de toi?
Alors, je m'appelle Maïmouna Doucouré, je suis réalisatrice, je suis née à Paris, mes parents sont d'origine sénégalaise et donc c'est ce qui me constitue, hein, ma double culture, mm-hmm. sénégalaise et française. Que dire d'autre? J'ai grandi avec... on était 10 frères et sœurs, du coup j'ai une enfance... Assez animée, je me suis pas ennuyée.
Ouais.
On a fait les 400 coups comme il fallait, donc super. Il y en a un qui a un an de moins, un autre qui a un an de plus que moi. Donc on était vraiment le trio, quoi. On a tout fait ensemble depuis petit. Et je sais que en tant que fille, du coup, j'ai dû très tôt trouver ma place au milieu de tous ces garçons. Et donc je me battais beaucoup avec mes frères pour m'affirmer. Je me laissais pas faire. Et je pense que d'une certaine façon, ça a forgé mon caractère. De combattante.
Est-ce que tu peux me dire comment ça se passait à l'école pour toi?
Moi, l'école, disons que c'est mon père qui donnait le là. Hein. Il insistait sur l'importance de l'école. Mes parents, ils sont arrivés en France il y a plus de 40 ans. Mon père était éboueur. Il a travaillé, s'est levé toute sa vie à 4h du matin. Je pense qu'il n'a jamais pris de congé maladie. Je ne sais plus le terme exact, mais...
Oui, d'arrêt maladie. Hein.
Exactement, voilà. Alors que même parfois, il ne se sentait pas très bien, mais pour lui, c'était un devoir. Le travail, c'est sacré, c'est important. Donc, toutes ces valeurs... faisait partie du cadre familial et il essayait de nous les transmettre. Et par contre, l'école, il nous disait, vous avez la chance d'être né en France, vous avez cette opportunité, vous devez la saisir, travailler à l'école pour pouvoir vous accomplir au mieux plus tard en tant qu'adulte et surtout pouvoir aspirer à d'autres métiers. Donc oui, il y avait ce côté... assez sacralisé.
L'importance de l'école.
Ouais, par rapport à l'école. Et moi, ça va, j'étais une bonne élève.
Et le rapport que tu as avec ta maman, c'est quoi? Est-ce que vous parlez beaucoup? Est-ce que vous avez une complicité particulière?
Moi, j'ai deux mères. j'ai ma mère biologique et j'ai ma deuxième mère parce que, comme je le dis souvent pour ceux qui m'écoutent, j'ai grandi dans une famille polygame. Donc je parlais plus de ma mère biologique. Oui, on s'entend très bien. On échange pas mal. Après, on n'a pas forcément la même vision des choses sur certains aspects sociétals, j'ai envie de dire, notamment la vision de la féminité n'est pas la même. Et donc moi j'aime bien débattre. Chez moi, je suis celle qui adore. J'ai cet esprit de contradiction depuis toujours. J'aime bien demander mais pourquoi, mais comment, mais depuis petite.
Mais le pourquoi est important, hein.
Le pourquoi est très important et c'est un mot que j'ai beaucoup employé et je me sens que, enfin, toute petite, ma mère me disait arrête de poser trop de questions, c'est comme ça, enfin voilà.
Ouais. Et puis le pourquoi peut mettre mal à l'aise aussi quand les personnes ne trouvent plus de réponse, parce que parfois, enfin surtout quand on est enfant, on nous dit des choses et il n'y a pas vraiment toujours de pourquoi derrière, quoi. C'est voilà, on te dit ça et c'est ainsi.
Ouais, il n'y a pas toujours la réponse derrière, en effet. Mais parfois, enfin, nos parents, il y avait souvent pas de réponse, quoi. C'est souvent, on pose pas de questions, t'es trop curieuse, enfin, tu vois. Et donc moi,
donc t'étais celle qui questionnait un peu toute la famille, qui questionnait
tout le temps,
voilà, régulièrement.
C'est tout le temps des débats. Ouais. Du coup, j'ai mes frères, des fois, quand je démarre des débats avec des amis à eux, qui disent ah non mais là, mauvaise idée, t'aurais pas dû. Arrête-toi, ne commence pas à débattre parce que vous allez passer la nuit, quoi. Mais j'aime bien, moi j'adore ce partage d'idées contradictoires, enfin voilà, que chacun apporte son opinion et c'est comme ça qu'on peut aussi se remettre en question, voir la vision de l'autre.
Exactement.
Et construire.
Du coup, je me suis demandé pourquoi tu as fait ce film. Quelles étaient tes raisons, tes motivations?
Alors la première inspiration, enfin moi le moment où je me suis dit je vais faire un film. Et je suis obligée de faire un film, vraiment, sur ce sujet. C'est lors d'une fête de quartier, j'ai vu un groupe de jeunes filles qui dansaient sur la scène, hein, parce qu'il y avait plusieurs spectacles. Et elles avaient 11 ans et elles dansaient vraiment comme dans les clips américains. Donc tout le monde disait « Waouh, elles dansent super bien !» Et en même temps, on les regardait en se disant « Mais il y a quand même un décalage entre leur danse et leur âge. » Oui, je me suis demandé si ces jeunes filles avaient conscience de cette image sensuelle qu'elles renvoyaient, qui n'était clairement pas de leur âge. Et donc ce jour-là, j'ai repensé à moi, en fait. J'ai vraiment fait une introspection. J'ai pensé à mon enfance, au moment où je jouais avec mes copines, où je dansais aussi avec mes copines, on dansait le ragamuffin.
Spice Girls.
Ouais,
non, moi j'étais jamais d'autre.
Ah oui, Spice Girl, on a dansé ouais sur la pop, mais aussi beaucoup les musiques du raga qui est quand même assez sensuel. Le zouk aussi on dansait, enfin vraiment pas mal de danse R&B etc, enfin tout ça ça nous a bercé, hip hop. Et il y a des danses, donc notamment le zouk ou le ragamuffin, qui sont quand même vachement sensuelles. Et en me replongeant comme ça dans mes souvenirs, je me suis dit, mais on se rendait pas compte de ce côté lascif des danses. Pour nous, on dansait, c'est trop bien, tu vois, on arrivait hyper bien à se mouvoir, à bouger notre corps, à onduler.
C'était juste reproduire, de dire, ah bah tiens, moi j'ai réussi, je suis descendue jusqu'en bas, j'ai fait ci, enfin tu vois, c'était se challenger en fait.
On descendait jusqu'en bas, c'est exactement voilà. Ça, et on faisait le butterfly.
Exactement.
Tout devait être hyper sensuel.
Mais dans ta tête, à ce moment-là, quand t'es enfant, moi j'avais pas le mot sensuel, je n'ai jamais eu ce mot-là, c'était juste, c'est super ce qu'elle fait, on parle de raga, mais ça peut être d'autres danses aussi. Par exemple, on peut faire d'autres références, Brigitte Bardot, quand elle dansait, c'était super lascive. Et je suis sûre que, sans aller vers le raga ou vers le hip-hop, ce que Brigitte Bardot faisait, il y avait énormément de jeunes filles qui minaudaient tout pareil, sans jamais se dire, tiens, on minaude parce qu'on veut séduire, en fait.
Exactement. À cet âge-là, évidemment, on est juste dans un mimétisme. C'est exactement ce que tu as dit. On se challenge, celle qui arrivera le mieux à tordre son corps. oui, donc voilà. Et c'est vrai qu'en y repensant, je me suis dit, bon, bah, sûrement, ces jeunes filles que je vois là danser, c'est le même schéma, quoi. Elles s'amusent, point. Comme ça fait longtemps que je n'ai plus 11 ans, n'est-ce pas? J'ai certes plongé dans ces souvenirs où je me posais beaucoup de questions aussi sur ma féminité, parce que double culture, un modèle de féminité à la maison et puis un autre dans la société occidentale. Je me suis beaucoup trouvée tiraillée et je me suis longtemps interrogée. Je pense que le personnage d'Ami dans Mian, c'est vraiment la petite fille que j'étais, que j'ai laissée s'exprimer à travers cette histoire.
Alors, il faut que je te dise, il faut que je t'avoue, quand je suis partie voir ce film, je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais fait mon speech dans ma tête et vraiment je m'attendais à tout sauf à ça. Et quand je me suis retrouvée là assise à regarder Ami, je me suis retrouvée dans des moments, il y a eu des moments où je me suis dit ouais non, c'était pas du tout ça non plus. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une telle innocence de l'enfance vraiment dans le personnage et tant de questionnements, tant de doutes et en même temps avec beaucoup de tendresse et j'ai adoré la relation entre la maman et Ami, entre sa maman et elle. J'ai vraiment vu une espèce de tendresse et d'amour de la maman qui
aime son enfant.
C'est voilà, c'est ça, qui aime son enfant,
qui a envie de tout à fait, et qui en même temps est en état de fragilité extrême et qui a ce moment d'absence vis-à-vis de son enfant. Fait. Mais ça, c'est pas lié à notre culture, enfin c'est pas lié à la culture africaine. Là, ce cadre-là de la polygamie est un cadre que je connais étant donné que j'ai mm-hmm. évolué dedans. Mm-hmm. Donc j'ai eu envie de mettre un peu de moi dans ce film, de mettre mon intimité. Ça aurait très bien pu être des parents qui divorcent, qui se déchirent lors d'un divorce. Ou une tromperie, ou autre, avec une femme qui accepte, qui se résigne. Évidemment qu'il y avait plusieurs façons de raconter cette histoire. Mm-hmm. Et c'est en ça que je trouve que l'universalité de mon propos existe.
Exactement.
Les gens se sont reconnus au sein de mon personnage parce que ce qu'elle vit, il suffit de le retransposer sur d'autres cadres familiaux qui existent dans tous les milieux sociaux. Donc, c'est ça qui est important pour moi. Et c'est vrai que mon personnage, j'ai réalisé à quel point je faisais ma thérapie, une thérapie très très personnelle en faisant ce film, à quel point je communiquais avec ma mère à travers cette histoire, à quel point je lui disais des choses que je n'osais pas lui dire dans la réalité et je lui faisais me dire des choses que j'avais envie d'entendre.
Ouais.
Donc c'est ça que je trouve magique avec le cinéma et avec l'art en général, parce que je trouve qu'on peut, ça veut pas dire qu'il faut pas régler les choses dans la vie, hein, mais ça permet de penser des blessures, ça permet de communiquer, ça permet d'exprimer des choses très profondes. Et puis, au-delà de ça, il y a toute cette dimension sociale. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces fiancés ce jour-là, je me suis dit, OK, je veux les comprendre, quoi. Je veux leur donner la parole. Et j'entendais toutes ces histoires. J'ai fait un travail d'enquête assez poussé. Pendant un an et demi, j'ai rencontré une centaine de petites filles et j'ai entendu des choses. La plupart des éléments qu'on peut voir dans Mignonne sont inspirés de faits réels, mais vraiment.
Ouais.
Je ne veux pas spoiler, mais à un moment donné, elle prend des photos osées, etc. Tout ça, c'est inspiré de faits réels. Dans la réalité, les personnes sont encore plus jeunes. Elles ont 10 ans, parce que là, mes personnages, elles ont entre 11 et 12. Mais dans la réalité, elles ont 10 ans. Et je rencontrais des assistantes sociales, et je rencontrais des parents ou des professeurs qui me disaient « on est dépassés ». Et c'est dans tous les milieux sociaux. Hein. Je ne suis pas là pour traumatiser les parents.
Moi, je trouve que c'est aussi important.
Il y a une réalité qui est dure.
Exactement.
Qu'il faut. Les parents se disent « non, c'est mon bébé
».
Et puis moi, je ne veux pas blâmer les parents parce que c'est sûr qu'on est dans cette... on a envie de protéger nos enfants et la façon dont on les protège, c'est aussi de se dire que ce n'est pas possible. Et c'est aussi, de toute façon, le fait de se voiler la face, on a l'impression qu'on les protège. Mmh. Alors que, c'est vrai qu'en voyant Mignonne, enfin moi, tous les parents que j'ai pu voir ou qui m'ont contacté par la suite m'ont dit, on est content d'avoir vu le film, soit on était avec notre enfant, donc c'est génial, là on en parle, ça a ouvert un échange qu'on avait pas osé initier parce que trop tabou, etc. à la maison.
Exactement.
Soit on est seul, là on revient pour le montrer à nos enfants parce que c'est essentiel qu'ils le voient et qu'on puisse échanger, qu'on puisse les écouter, qu'on puisse les comprendre. En fait, moi, c'est surtout ça. C'est ce film, je l'ai fait pour qu'on juge les enfants, mais pour qu'on les comprenne et que nous-mêmes adultes, on se remette en question. Parce qu'on peut pas tout contrôler, même en contrôlant le téléphone de son enfant, même en bloquant une fois qu'il sera à l'extérieur, parce qu'il va bien sortir pour aller à l'école ou autre. Il va être avec d'autres camarades, d'autres ont peut-être des téléphones et j'ai pas envie d'être dans le fameux c'était mieux avant parce que on parlait tout à l'heure nous de danse également qu'on reproduisait etc. Mais la différence c'est sûr qu'elle est flagrante avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a une exposition qui est totalement différente. À l'époque ça restait entre nous.
Exactement.
C'est fini, les images de ces images là dont on parle avec nos copines, n'existent pas, en fait. Aujourd'hui, elles vont perdurer, elles existent, elles sont diffusées, il y a cette surenchère avec les likes et les followers, qui sont comme une drogue, hein, le corps, c'est prouvé scientifiquement, ils sécrètent de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et on en veut encore et encore toujours plus, et on sait que plus on va être objectisé en tant que femme, plus on va plus on va avoir ces fameux likes et followers. Et les enfants, bah, ils comprennent pas vraiment tous ces mécanismes, mais ils font la même chose pour avoir le même résultat. Et c'est là où il faut que nous, adultes, on soit hyper vigilants par rapport à ces outils ouais, qu'on met entre leurs mains et à la façon dont on communique avec eux.
Je voulais aussi parler du regard de l'adulte, parce que certaines personnes disaient justement du film que c'était gênant parce que elles avaient peu de vêtements, parce que on voyait des cuisses. Mais en réalité, enfin, quand on voit des enfants à la plage, quand on voit problème, c'est bien notre regard et ce qu'on interpose sur ces enfants, en fait. Hein. De ce que j'ai vu, j'ai juste vu des enfants dans le mimétisme. Alors ça interroge sur le regard de ces personne qui était dans le film, de l'adulte qui a regardé l'enfant et de se dire à quel moment, toi, en tant qu'homme, adulte, tu estimes que tu peux avoir ce regard-là sur un enfant de 11 ans. Des enfants dansent, c'est une chose, mais à quel moment certains adultes pourraient transposer leur fantasme sur des enfants de 11 ans ? Donc le problème n'est pas le film qui dénonce ça, le problème ce ne sont pas les enfants puisqu'ils sont dans une innocence. Le problème, c'est tout ce qui se passe à côté, derrière, et tout ce que ça sous-entend.
Ouais, bah écoute, je ne peux qu'être d'accord avec toi, forcément. Mais tu sais, cette forme de censure par rapport à la façon dont je raconte cette histoire, moi, je la vois comme une forme de protection, de peur. Pour moi, Mignonne, c'est un miroir. Hein. C'est un miroir de la société. C'est un miroir dans lequel on va devoir se voir, en tout cas pour ceux qui verront le film, réellement. C'est pas toujours facile de se voir dans ce miroir, ça c'est sûr. Du coup, au lieu de cristalliser ces peurs-là par rapport au film, la réelle question c'est de se dire, ok, mais en fait, quand mon enfant danse sur TikTok, quand mon enfant s'expose sur Instagram ou sur les réseaux en général, sur Snap, qu'est-ce qui s'y passe? Qui est-ce qui la regarde? Il y a un petit documentaire d'ailleurs qui avait été fait hyper poignant sur TikTok et sur le nombre d'hommes vieux hommes pervers qui passaient leur temps à épier la moindre vidéo des petites fillettes de 7 ans, quoi. Wow. Tu vois, entre 7 et je ne sais quel âge, qui de façon totalement innocente dansent, mais dans toujours ce mimétisme, hein, parce que, voilà, elles regardent les clips ou les vidéos. Et puis, tu regardes les commentaires, parce qu'il montrait en plus dans ce petit reportage les commentaires où t'as le mec qui dit « Ah, génial, vas-y, danse encore, tourne-toi. » Enfin, oh, l'horreur, wow. Quoi. C'est dur, mais c'est là qui est le problème. C'est vraiment là qui est le problème. Et c'est ça qu'il faut combattre, ces hommes-là. Exactement. Qui sont présents là. J'ai une maman qui est venue me voir à l'issue d'une projection, qui était en larmes. Oui. Elle était avec sa petite fille qui avait 10 ans et qui me disait merci pour le film parce qu'elle a vécu une expérience, similaire, hein. voire pire avec sa fille. Elle me disait, ma fille, donc là, elle a 10 ans, mais quand elle avait 8 ans, elle était sur un réseau, je me souviens plus du nom. Mm-hmm. Et elle m'a dit, sa fille, donc, commençait à tchatcher comme ça avec un homme qui se faisait passer pour un mec beaucoup plus jeune, etc. Enfin, pour un ado, quoi. Et enfin, même pour un enfant, d'ailleurs. Et qui lui disait, ouais, vas-y, enlève ton haut, déshabille-toi. Et la petite l'a fait. Oh, vas-y, déshabille-toi. Et la petite a fini par se retrouver toute nue. Parce qu'il a tellement installé un rapport de confiance entre elle et lui qu'elle a commencé à tout faire. Et puis là, l'étape d'après, c'était, ouais, c'est trop bien, faudrait qu'on se voit, tu sais, on va jouer.
Oh là là,
et là, la mère est tombée sur les messages. Le sang m'est glacé. Elle a appelé la police, ont fait une enquête, ils ont vu qu'en fait, c'était un vieux mec. Et elle était tétanisée. Toutes les personnes qui ont vu le film et qui sont vraiment proches des enfants et qui connaissent toutes ces réalités insistent et me disent, il faut que ce film soit vu dans les écoles, que ça serve de base d'échange, de discussion pour vraiment sensibiliser la jeunesse, les filles et les garçons, parce qu'ils sont tous les deux concernés.
Il faut vraiment le voir, il faut que les parents aillent le voir, il faut pouvoir en discuter, même sur la féminité, sur le questionnement de soi, sur le changement du corps. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans ce film, et le rapport mère-enfant, le rapport homme-femme, il y a énormément de choses qui se jouent en fait dans ce film. Je l'ai trouvé, mais époustouflant.
Je pense que c'est vraiment un travail qu'on doit faire de concert, artistes, politiques, parents, système éducatif, enfants aussi, enfin, éveiller l'esprit critique de nos enfants et encore une fois, nous, se remettre en question.
Et puis, la représentation aussi. C'est bien parce qu'il y a très peu de films en France aujourd'hui avec des représentations, avec des petites filles racisées, des petites filles noires. En fait, juste une histoire qui peut être universelle, pas dans la caricature, et qui représente quelque chose, un problème, par exemple, de société, qui quelque chose qui touche toute la société française aujourd'hui. Et j'ai dit, bravo, magnifique aussi pour
merci.
Ça.
Merci, oui, parce que nous, on a, du coup, maintenant, je sais qu'on est un peu de la même génération, donc... Mm-hmm. On en a eu très peu des modèles et des personnes qui nous ressemblent en regardant les écrans, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Aujourd'hui,
les livres, les films, les...
Voilà. Ouais, c'est dingue. Et donc moi, je... Évidemment, enfin, le film, il va au-delà de la couleur de la peau. Il y a toute cette représentation de la société française que je montre à travers cette histoire. Et donc, mon personnage principal est noir. Tu as pu voir, je pense qu'elle a des cheveux afro.
Ouais.
Et j'ai une petite anecdote par rapport à ses cheveux afro.
Ouais.
Donc il y a un moment donné dans le film, sans vouloir trop spoiler, où elle arrive à l'apogée de, au top niveau de tout ce qu'elle peut être, de la beauté, de sa féminité, etc. Et elle a une coiffure afro, n'est-ce pas?
Oui. Je l'ai vu.
En fait, pour arriver à ça, c'était très difficile parce que le jour du tournage, sachant qu'une journée de tournage, ça coûte vraiment très très cher, c'est des dizaines de milliers, je crois 80 000 euros une journée de tournage, donc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, on a perdu 2 heures. Et c'est précieux. Chaque minute compte, en fait, quand tu tournes. Pourquoi? Parce que mon actrice pleurait. Parce que quand j'ai voulu lui faire l'afro, elle m'a dit, hors de question, moi, je me réveille comme ça le matin, on dirait une folle, moi, je veux pas sortir comme ça. Fais-moi un brushing, quoi. J'ai dit, non.
Oui.
Et en fait, j'ai essayé de lui... Bah, je lui ai fait comprendre à quel point... cet acte-là de la mettre en afro au moment où elle doit être la plus belle est un acte politique presque, tu vois, en tant que réalisatrice. Je dis, sublimer tes cheveux afro, montrer que les cheveux afro, c'est là où tu es la plus belle, c'est hyper important en fait, qu'on soit capable d'assumer nos cheveux. Je dis ça parce que c'est un chemin, enfin moi, peut-être qu'on est... Ouais. Moi, des frisages, si tu veux, j'ai envie de dire, je suis née avec des frisés, on n'avait jamais vu la nature de cheveux, de nos cheveux. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai aucun problème à avoir des extensions, à lisser les cheveux, mais par contre, je sais avoir mes cheveux afro. Et ça, c'était pas mon cas avant, donc je sais, j'aime bien changer de tête, donc des fois, je peux avoir les cheveux lisses, des cheveux bouclés, des cheveux afro. Mais le fait de pouvoir avoir mes cheveux afro, maintenant, je suis hyper contente parce que c'est très récent pour moi. Et le fait de le mettre dans un film, je trouve que c'est hyper important en tant qu'artiste noire.
Exactement.
De pouvoir dire à des filles, à des femmes, des petites filles, ça, c'est beau, en fait. Tes cheveux, ils sont beaux. T'as pas l'habitude de le voir. On te l'a pas souvent dit, mais moi, je te le dis, c'est super beau. Regarde, c'est toi et ça peut être la plus belle version de toi. Et donc, bon, finalement, j'ai réussi à la convaincre au bout de 2 heures. Elle avait les yeux rouges, en larmes, etc. Mais c'est tellement important, je trouve. Les images ont un pouvoir colossal sur notre façon de voir le monde et nos pensées, notre construction, en fait, la façon dont on peut se construire et se projeter dans l'avenir. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, mon actrice, elle adore ses cheveux, quoi. Moi, dès le lendemain, ça y est, maintenant, elle est toujours en afro. Et elle me dit, ah, j'aime trop, tout le monde me dit que ça me va bien, et maintenant, elle adore.
Et est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu as fait avant et comment tu en es arrivée là?
Alors, brièvement, disons que moi, le cinéma, ça m'a longtemps, enfin, depuis très jeune, passionnée. J'ai pendant, on va dire, j'ai toujours pensé que ça ne m'était pas destiné. Probablement, on en parlait tout à l'heure, dû au manque de modèles, hein, n'est-ce pas?
Oui.
Qui inconsciemment peut amener une forme d'auto-inhibition. Et donc, j'ai fait des études de biologie, moi. Mais par contre, c'est jamais resté bien loin, le théâtre et le cinéma, parce que je faisais partie d'une compagnie de théâtre, j'ai fait du théâtre, et puis j'écrivais des scénarios, et puis je regardais beaucoup de films. Donc, c'est resté quand même quelque part. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai participé en 2013 à un concours de scénarios que j'ai remporté. Je faisais partie des lauréates, et là, j'avais 3 mois sans argent pour faire un film. Et puis, il y a toutes ces questions, tu sais, de choix, quoi, de légitimité. Ouais. Bon, j'ai pas fait d'école. Est-ce que j'en suis vraiment capable? Et puis, je suis contente parce que j'ai réussi à vraiment casser ces barrières mentales et me dire, j'y vais, quoi. J'y vais, j'ai une opportunité, je fonce. Et j'ai fait ce film, j'ai vu les images sur un écran et je me suis dit, OK, j'avais cette histoire en tête, elle est aujourd'hui sur un grand écran. Je vais pouvoir... continuer à raconter toutes ces histoires et toutes ces choses que j'ai en moi qui sont profondes et nécessaires selon moi. Et donc, j'ai par la suite écrit un court-métrage qui s'appelle Maman et qui a eu une histoire assez folle parce que le film, le court-métrage a été sélectionné dans 200 festivals à travers le monde. Il a gagné plus de 60 prix, de nombreux prix aux États-Unis. Il a gagné des prix dans tous les, sur tous les continents. Il a gagné des prix en Chine, il a gagné des prix en Australie, aux États-Unis. Et il a gagné le César en 2017. Donc là, waouh! Je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc après, voilà, j'ai fait Mignonne.
Et là encore.
Et là encore, le film a remporté en janvier. Il a commencé, il a fait sa première mondiale au festival de Sundance,
oui.
Qui est le plus grand festival de films indépendants aux États-Unis. Et il a gagné donc le prix de la meilleure réalisation. Ensuite, il a gagné également un prix à Berlin, au festival de Berlin en février.
Mmh.
Et donc, je suis ravie de ce qui se passe avec Mignonne.
Et je trouve juste merveilleux d'avoir aussi des exemples comme ça et de montrer un autre cinéma et une autre représentation.
Exact, et créer d'autres modèles pour, oui, élargir le champ des possibles et que les enfants puissent se projeter et se dire qu'ils peuvent vraiment choisir les adultes qu'ils ont envie d'être demain.
Bah écoute, je te remercie pour ton interview et puis je te souhaite beaucoup d'autres films parce qu'on sera là pour te regarder. Voilà.
Ah bah super, merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
Je t'en prie.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Et Mignonne est en salle, hein, n'est-ce pas? Il est encore
oui,
en salle.
Oui, il est en salle jusqu'à quand d'ailleurs?
On ne sait pas encore. En fait, ça va dépendre du public. Tant qu'il y a une demande, une envie de voir le film. Mais là, je pense qu'il va y être encore pendant un moment.
D'accord.
Il faut quand même aller voir vite.
Oui, il faut y aller, il faut y aller. Et puis, il faut supporter,
et
pouvoir aussi en discuter,
en
partager. On s'y retrouve tous. Allez.
Merci, merci beaucoup.
Salut.
À bientôt.
Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles.
5,
ainsi
5,
que
5.
De partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook.
Et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com.
À très bientôt, Ulrich.
Enfin, en tout
moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. Courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.